I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Littérature. Arnaud Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi, ce soir, Elisabeth Philippe, Lucille Como et Florent Georgesco. À notre sommaire, Arcadie d'Emmanuel Bayamactan chez POL. Idiotie de Pierre Guillotat chez Grasset. Un petit salon de Lucille Como. Un coup de cœur d'Elisabeth Philippe. Ce sera pour Forêt Obscure de Nicole Krauss à l'Olivier. Boris Pinot est là pour suivre et commenter les fils Facebook et Twitter. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition Hugo Pratt, ligne d'horizon, visible jusqu'au 24 mars prochain au musée des Confluences à Lyon. Une nouvelle saison de la dispute avec quelques retours, vous l'aurez compris, un coup de cœur chaque soir désormais, mais aussi une fois par semaine, ce que vous étiez nombreuses et nombreux à réclamer, le retour non seulement de Lucille Como, sa première de la saison, mais aussi de son fameux petit salon. Et comme il faut plein de premières, on vient de me transmettre à l'instant un lancement dont je ne comprends pas un mot, puisqu'il est signé Lucille Como. Alors, il y a marqué Arnaud, donc ça j'imagine je ne dois pas le dire. Aujourd'hui, capitaine, tu t'appelais Maria Schneider, c'est un tournant de la vie dans un monde à portée de main. Et dans la forêt obscure, les cigognes sont immortelles, n'est-ce pas Lucille?
Oui, je pense que les autres participants à la dispute ce soir savent de quoi il s'agit. Ce sont des titres, voilà, de la rentrée littéraire, des titres qu'on entend beaucoup, beaucoup. Et j'ouvre donc ce premier petit salon de l'année avec un moment de critique de la critique. Ah, la rentrée littéraire, ces tonnes de livres entassés dans les bureaux depuis la fin du mois de juin et qu'on ne peut pas tous, il faut bien le reconnaître, emporter chez soi, sauf peut-être Elisabeth Philippe. Si on en croit son compte Twitter, elle postait il y a quelques jours une photo avant-après assez saisissante de son salon. Impressionnant tas de livres sur le parquet sur la première, puis bibliothèque parfaitement ordonnée sur la deuxième, à se demander où étaient passés les livres, hein, en l'occurrence. Alors cette année ne sortait que 567 romans, je dis que car c'est moins que l'année dernière, apparemment même ce serait une tendance durable depuis quelques années. Mais bon, tout de même, 567 romans à lire, quand on est critique littéraire, ça fait un peu beaucoup. Même si on ne se concentre par exemple que sur les romans français, ça fait encore 381, ou encore que sur les premiers romans, 94. Lire 100 livres en 2 mois, ça fait plus d'un livre par jour ou par nuit, selon ses habitudes. Même sans manger et sans dormir, ça me paraît compliqué. C'est donc impossible, soyons honnêtes. On pourrait imaginer donc qu'arriver le mois de septembre, chaque journaliste, chaque émission de radio, chaque papier, traite de livres tout à fait différents, chacun puisant selon des critères propres parmi cette immensité de pages. Eh bien non, vous avez remarqué, on parle en tout et pour tout d'une trentaine de titres, et encore je suis bonne fille, souvent c'est plutôt 10, et tous les mêmes, Angot, Kerangal, Bégodeau, Nothomb, Ferrari, les mêmes titres, les mêmes noms, les mêmes portraits aussi s'étalent en couverture, à croire que tout le monde en matière de littérature contemporaine a les mêmes goûts, à croire que quelques livres représentent chaque année ce qu'il convient d'appeler la littérature contemporaine française, pas les gros best-sellers qui se fichent bien, eux, des calendriers et de la presse, pas non plus les livres obscurs d'auteurs inconnus, non, un entre-deux mystérieux qui fait la une partout. Et je m'inclus totalement dans le tas, disons-le tout de suite, cette chronique est aussi un lieu d'auto-flagellation. Moi qui ai lu les mêmes livres que tout le monde, avec quelques petites excursions pour le frisson. Alors, comment l'expliquer? Est-ce paresse? Est-ce frilosité? Est-ce qu'à l'origine de cette réduction drastique des choix, il faut voir des stratégies d'éditeurs? Est-ce l'effet des prix littéraires, dont la saison suit de près la rentrée littéraire et qui formate à l'avance un type de livre digne d'être sélectionné? Force est, en tout cas, de constater que les livres qui peuplent les pages des Un Rock, du Monde, du Figaro et les ondes de la dispute sont les mêmes qui figureront dans les sélections du Renaudot, du Goncourt & Co. et les mêmes qui sont sur les étals des libraires aujourd'hui. Alors ma question est certainement naïve. Qui opère au départ ce choix dans ce cycle impitoyable de la vie littéraire? Sommes-nous, chers amis critiques, la poule ou l'œuf?
Voilà une question qui va nous occuper à peu près 13 heures. Hein. C'est prévu. Je note quand même, Lucille Comeau, que vous êtes bonne fille.
Bon, oui.
C'est le premier scoop de l'année. Et puis, il y a un mystère, c'est celui de la bibliothèque d'Elisabeth Philippe qu'il va falloir résoudre dans ces 13 heures d'antenne.
Ils sont à la poubelle, non, les livres?
Jamais.
Elisabeth.
Ah non, ça c'est une règle d'or.
Pas poubelle.
Oh. Non, jamais à la poubelle. Jamais.
Ils sont où d'ailleurs?
Vous voulez vraiment savoir?
Ouais.
C'est très très décevant.
Ils sont posés en bas de votre immeuble
pour
que vos voisins se servent.
Ils sont donnés à une association qui s'appelle Recyclivre et qui les revend. Et moi, je ne touche pas d'argent, mais eux, l'argent touché est reversé à des associations de lutte contre l'illettrisme.
Eh bien, c'est très bien. Ouais. Bien. Alors maintenant, il faut répondre à la question posée par Lucille Comeau. Pourquoi est-ce qu'on lit tous les mêmes livres, peu ou prou?
Nous, il n'y a pas de complot estival, des
Ce sont les Illuminati.
Les Illuminati. Voilà, je crois que c'est la réponse. On n'a pas besoin de 13 heures. Non, pas de complot estival des critiques qui se réunissent et font des pactes de sang pour se dire on parlera de ces 10 livres. Vous l'avez un peu abordé. Vous avez parlé des 567 romans. Certes, un chiffre en baisse, mais on est toujours dans un phénomène de surproduction éditoriale. Pour un article que j'ai récemment publié cette semaine sur les premiers romans, donc vous le disiez, il y en a 94. J'ai contacté notamment une sociologue qui est spécialiste de la prescription, prescription littéraire et des modalités de prescription. Et on parlait de ce phénomène de surproduction qui est très ancien. Chaque année, on le déplore et qui s'accompagne en plus d'une réduction de la place accordée à la littérature dans la plupart des journaux et magazines, d'une réduction des effectifs de critiques. Tout ça fait que on a moins de place pour parler des livres. On va donc donner une priorité, peut-être à juste titre ou non, à des livres dont on se dit qu'ils vont faire l'actualité. Enfin, certes, c'est nous qui allons faire l'actualité, mais dont on se dit que les gens, les lecteurs ont envie de savoir de quoi ils traitent. Je pense évidemment aux livres très attendus d'auteurs qui ont eu des prix, d'auteurs stars comme Christine Angot, etc. Et tout cela, tout cet enchaînement de causes et tous ces en fait c'est plutôt des conditions économiques, moi je pense, qui sont au départ à l'origine de ce phénomène de mimétisme ou d'imitation, en tout cas de reproduction.
Mais du coup, économique de la part de qui? De la part des éditeurs qui ont intérêt à lancer certains auteurs, ou de la part des journaux qui ont intérêt pour vendre à se faire le relais? Enfin, c'est là toute la question de la poule et l'œuf. C'est qu'on a l'impression que tout s'entretient.
Moi, je pense que tout est lié, oui, bien sûr. Oui.
Et c'est dommage.
Bien sûr, c'est dommage.
Ah oui.
Alors, première réponse de Florent Georgesco.
Alors oui, la question de l'intérêt est la bonne question. Mais il faut aussi toujours, comme en économie, penser que l'acteur n'est pas toujours rationnel. Je ne sais pas si c'est l'intérêt en particulier des journaux. Je pense qu'il y a un mimétisme, une peur, comme le disait Elisabeth, une recherche de ce qui va faire l'actualité. Il faudrait, pour approfondir la question, voir les relations des directions de journaux avec les services culturels ou proprement littéraires. Enfin, il y a toutes ces questions-là dans la presse. Ça me paraît très très peu rationnel au fond et définitivement impossible à établir. Enfin, les causes sont du côté des éditeurs. Il est évident, en revanche, qu'il y a de la part des grandes maisons un choix extrêmement précis. Une très grande maison généraliste aujourd'hui, dans une rentrée littéraire, peut sortir 20 livres, par exemple. Il est très clair, et ça c'est un message qui est parfois explicite, qu'elles choisissent très peu de titres parmi leurs propres productions. Donc là, il y a à l'évidence dans leur esprit un intérêt économique à le faire. Savoir pourquoi parfois, ça ne paraît pas systématique quand même, mais parfois la presse suit cela, pour moi ça reste un mystère. Par ailleurs, le vrai problème n'est pas tellement dans les faits, parce que il est tout à fait certain qu'on ne peut pas lire on peut même pas lire tous les livres qui étaient dans le salon d'Elisabeth. Le problème est que tout tend à faire croire que ce choix correspond à un choix du meilleur. Et c'est surtout par rapport à cela qu'il faudrait arriver à casser quelques-uns des codes de la rentrée littéraire. Parce que ce qu'il faut que nos auditeurs, que tout le monde sache très clairement, c'est que ça n'a aucun rapport avec un choix de qualité. Toutes les raisons, tout ce que a dit Elisabeth va dans ce sens. Déjà, il est évident que si on cherche ce qui va faire l'actualité, on ne cherche pas ce qui va être bon, parce qu'il se trouve que c'est pas que l'actualité se nourrit assez peu du fait que quelqu'un a écrit un chef-d'œuvre. Je ne sais pas moi, quand on dit oui, bien sûr, tout le monde veut voir ce qu'il y a dans le Hango, par exemple. Quelques critiques, et non des moindres, dirais-je, estime que cet angle-là, en tout cas, est assez raté. Il n'empêche qu'évidemment, il aura une couverture extrêmement large. Bon, donc il y a une non-coïncidence avec la qualité. Ce qu'il faut en fait rappeler tout le temps, donc vous nous donnez une très bonne occasion de le faire, c'est que c'est essentiellement arbitraire par rapport à cette question de la qualité. Mais... le drame, et ça je l'observe en parlant avec des lecteurs, avec même des libraires, c'est que beaucoup finissent par être persuadés qu'il y a une sorte de première division et de seconde division. Ce qui est totalement bidon. Il est évident qu'un titre dont personne ne parlera peut être d'excellente qualité, que nous sommes, nous, la presse, tout à fait capables de passer à côté de ce qui est réussi, parce que techniquement, on ne peut pas faire autrement, et qu'il y a cet ensemble de pressions diffus autour de nous.
Lucille Comot.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, du coup, par principe d'honnêteté, de pousser l'arbitraire jusqu'au bout? Et vous, Florent Georgesco, par exemple, au Monde, de piocher vraiment par hasard un titre et de s'astreindre à en faire l'écho.
Absolument.
Même si le livre n'est pas un des meilleurs livres de la rentrée. Non mais ça pourrait être un principe, puisque alors, si arbitraire il y a.
Je vais être un tout petit peu odieux. Le Monde des livres, en l'occurrence, est un tout petit peu à part, parce que nous avons plus de pages. Ce que dit Elisabeth est parfaitement juste sur la réduction du nombre de pages dans les journaux, sur la réduction du nombre de critiques. Nous avons un outil de luxe au Monde. Nous avons 12 pages chaque semaine de la rentrée littéraire, ce qui nous permet quand même de traiter plus de livres, et nous avons toujours une très belle équipe, très large équipe de critiques. Donc il est plus simple dans ces conditions d'arriver à attraper des choses. Cela dit, je suis d'accord avec vous sur le fond. Oui, il faudrait être plus souvent capable de faire ça, mais qu'est-ce qui se passerait dans les journaux si on faisait ça systématiquement? Est-ce que tout le monde dans les journaux serait d'accord avec ça? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est une voie. Il faut trouver tous les codes pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas vrai. Ces livres-là ne sont pas les meilleurs. Et très souvent, et on aura l'occasion de le dire dans cette émission même, très souvent, c'est même le contraire. Parmi ces 30 livres, beaucoup sont de très mauvais livres. Et il est très important de le dire. Ce ne sont pas les meilleurs qu'on sélectionne.
Alors, deux questions. D'une part, alors peut-être pour dire que c'est une chose qui arrive dans la rentrée littéraire, mais qui se produit quand même dans d'autres disciplines artistiques. Moi, je prends souvent l'exemple de Christine de Queens, la pauvre. Je crois vraiment que je l'aime pas, mais j'aime pas son travail, ça n'a rien à voir avec elle. Tout d'un coup, on l'a vu apparaître, et c'est une traînée de poudre. Ça a été pour Juliette Armanet, ça a été pour Clara Luciani, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça marche en musique. Et on a l'impression, alors comment ça se passe dans les conférences de rédaction? Moi, je ne suis pas. Alors évidemment, des journaux dans lesquels vous avez travaillé avant, ceux irréprochables dans lesquels vous travaillez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment quand même ce sentiment de dire, ah mais tel titre l'a fait, tel titre l'a fait, alors Coco, quand est-ce que tu nous fais le papier? Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est un fantasme que j'ai moi, qui ne vais pas aux conférences de rédaction?
Je pense que c'est même au-delà de la culture. Je crois que c'est toute la presse. Mais alors là, on va pas se lancer dans une analyse de la crise de la presse. Mais il y a une vraie frilosité. Je pense que, comme
si deux l'ont fait, il faut que tout le monde le fasse, quoi. C'est un peu ça l'idée.
Oui, mais là, il y a des exemples constamment. En ce moment, non, je ne vais pas revenir sur des choses qui n'ont aucun rapport. On accuse un journaliste de télé d'avoir plagié des articles dans de la presse papier. Ça a toujours fonctionné comme ça. Je pense que la crise dans laquelle que l'on traverse actuellement, exacerbe cette tendance. Et je ne pense pas, comme le disait tout à fait justement Florent, en disant que c'est jamais rationnel, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense que la presse se tire une balle dans le pied à s'auto-reproduire. Et là, on est vraiment encore plus que jamais dans ce que Bourdieu appelait la circulation circulaire de l'information. Oui. Là, ça tourne totalement. Il n'y a que les journalistes qui se lisent et qui se reproduisent. Alors, qui reproduisent leurs articles. Hein.
Du problème de l'identité même des journaux et des magazines.
Oui. Mais oui, c'est bien qu'on y insiste. C'est irrationnel. Dans quel secteur de l'économie fait-on tout ce qu'on peut pour se distinguer le moins possible de son concurrent? C'est ce que nous avons tendance à faire. C'est une absurdité qui est mortelle à terme, comme vous le disiez, Elisabeth, pour nous. Donc il y a un moment où il faudra qu'on essaie de réfléchir. Mais bien entendu, et pour répondre à ce que vous, à votre question, Arnaud, bien entendu, et je ne parle vraiment pas du Monde ni de l'Obs. Nous sommes des privilégiés encore une fois. Mais bien sûr qu'il y a de telles consignes. Dans certaines rédactions, bien évidemment.
Simplement pour terminer sur
est-ce que tu vas faire quelque chose sur ça ? Bien sûr.
Pour terminer sur une petite note positive, parce qu'on va pas plomber tout de suite la rentrée littéraire dès notre première dispute, mais la rentrée littéraire, c'est aussi l'occasion, je pense, de faire preuve d'un peu plus de curiosité et de faire beaucoup... Enfin, en tout cas, je sais que pour ma part, je fais beaucoup plus attention aux premiers romans, enfin, tout au long de l'année. Mais là, il y en a énormément qui arrivent et voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir de nouvelles voies.
Alors, c'était ma deuxième question, Candide, avant que Lucine et encore à intervenir, mais chaque année, ou presque, alors je ne sais pas d'ailleurs sur qui c'est tombé cette année, mais tout le monde parle du même premier roman.
Oui, c'est le cas encore.
Hein. C'est qui cette
ça
année ?
Ça s'appelle Sarah, moi je dirais.
Ça s'appelle Sarah,
de la Mère à l'Arabe. Bon. Exactement.
Alors là, c'est le mystère des mystères. Pourquoi tout le monde
Très sincèrement,
parler du
là,
même
moi,
j'en
ai vraiment lu. J'ai pas lu les 94.
Alors là, vous avez
j'en ai
un
ouvert,
sujet vraiment là-dessus,
j'en ai ouvert beaucoup. On va pas se mentir, après sur les 94, s'il y en a...
Non mais il y en a peut-être 10 qui méritent.
Oui,
mais pourquoi c'est toujours... Il y en a un.
Oui mais bien sûr, c'est
la
bonne
question. C'est le
mystère
des mystères.
Parce que là, c'est pas parce que les gens sont connus, c'est pas parce qu'ils ont lieu des prix, etc. par définition.
C'est vrai que c'est mystérieux. Je pense à un premier roman d'une ambition folle qui est La grande idée d'Anton Berhaber. Je pensais vraiment que les gens allaient en parler. Il n'y a aucun écho pour l'instant.
Et dans la sélection de l'Obs France Culture.
Oui.
C'est votre choix, ça.
Heureusement.
Bon. Mais vous savez, c'est très mystérieux. Ce que raconte Sarah, c'est bien ça le titre.
Ça raconte Sarah, pardon.
Je ne l'ai pas lu. J'en ai entendu parler. Enfin, la rumeur circule en juin.
Il y a plusieurs choses. Ouais. C'est le seul livre des éditions de Minuit. C'est le seul livre que choisit de publier éditions de Minuit. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose dans l'air du temps. C'est une histoire d'amour lesbienne. Bon, il y a beaucoup de facteurs après.
Ce que vous dites me fait penser à un autre problème lié à tout cela. C'est justement les éditeurs. Il y a une autre illusion qu'il faut absolument détruire. C'est que un livre qui sera chez un des gros éditeurs français qui ont une histoire extraordinaire comme Minuit ou une puissance extraordinaire, que ces livres là sont bons. Ce n'est pas l'idée selon laquelle les grandes maisons publieraient les meilleurs livres est aussi une idée totalement
infondée. A contrario,
infondée.
L'idée que toutes les pépites se nichent chez les toutes petites maisons d'édition.
En fait, il n'y a aucune règle. Non, mais bien sûr, le coût de la pépite, il y a plein de très mauvais livres dans les petites maisons, mais il y en a au moins, il y en a plus par définition dans les grandes. Je voudrais juste ajouter un tout petit mot parce que j'avais oublié par rapport à ce que vous disiez, Lucille, dans la question des libraires. Heureusement, il n'est pas tout à fait vrai qu'on retrouve exactement les mêmes listes chez les libraires, en tout cas chez tous les libraires. Il ne faut jamais perdre une occasion de dire que nous avons un système de librairie absolument extraordinaire en France, qui est un des derniers à avoir dans le monde à avoir une telle
beaucoup
richesse.
Beaucoup qui font ce travail d'annoter
eux-mêmes. Et je connais beaucoup d'éditeurs, de libraires, pardon, là-dessus, qui font ce travail et chez qui on peut trouver autre chose, chez qui on peut découvrir peut-être, et c'est moi aussi je bats ma coupe, plus facilement que dans la presse, parfois.
Lucille Comeau, pour terminer.
Non, moi j'ai juste hâte, au-delà de l'argument économique, dans quelques années, de pouvoir travailler, je pense que des sociologues ou des gens des études littéraires s'en empareront, sur la cohérence dans le fond, sur le fond stylistique ou formel de ces 10 ou 15 romans de chaque rentrée
entendu.
Littéraire, parce qu'il y en a une, c'est évident. Parce que quand on a le nez dans le guidon, on a l'impression que de Hango à Nothomb, en passant par Ferrari, il n'y a rien. En fait, si, ce sont quand même des romans classiques, dans un sens un peu large du thème, si. Et je crois que ça serait vraiment intéressant de s'interroger sur ce qu'on considère être la grande littérature, voilà, sur les années 2000 à 2010. Bon.
Rendez-vous
ça m'intéresserait vraiment
de 2028.
Voilà, on a vraiment 13 heures, ça serait bien.
C'était une fake news.
C'est un petit salon.
On ne peut plus faire confiance à France Culture.
Fake news. Ah ben, vous avez changé la virgule, monsieur Thomas Beau, qui ferme ce petit salon, en tout cas, à suivre. Dans la dispute, on va parler de livres. Cette fois, on va pouvoir se bagarrer, ou pas, en parlant d'Arcadie d'Emmanuel Bayamatak, chez POL, Didier aussi de Pierre Guyotat chez Grasset. Nous aurons droit à un coup de cœur, celui d'Elisabeth Philippe ce soir pour Forêt obscure de Nicole Krauss à l'Olivier.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée donc ce soir à la littérature avec le nouveau livre d'Emmanuel Bayamak-Tam, Arcadie, publié chez POL, comme tous ses livres depuis 1996, sous ce nom ou sous celui de Rebecca Ligueri. Elle est toujours prof de lettres dans un lycée de banlieue parisienne. La Marseillaise de naissance, c'est important pour elle, Marseille, a enfin gagné en visibilité depuis le prix Alexandre Vialat, reçu en 2013 pour son roman « Si tout n'a pas péri avec mon innocence ». L'occasion d'adresser un salut amical à notre camarade Daniel Martin, qui présidait alors aux destinées de ce prix des Fricheurs. Mais rendez-vous sous le baldaquin et la tendre sollicitude d'Arcadie ne doivent pas m'éloigner de mon objectif. C'est bien joli de se faire lutiner, mais je n'aurai pas toujours la chance de tomber sur des amoureux omnivores et pas regardants. Si je veux une suite à ce bel été, je dois déterminer si je suis une fille ou un garçon, au lieu de rester dans l'indétermination à laquelle mon corps incline irrésistiblement. Interrogée, ma grand-mère LGBT se montre catégorique. 15% de la population mondiale présente un certain degré d'intersexuation. Bon, en même temps, c'est ma grand-mère et elle a toujours eu tendance à tordre la vérité dans le sens de ses intérêts communautaristes, alors je ne vais pas tabler sur ses assertions pour me résigner à mon entre-deux. N'empêche que si je rapproche son chiffre de mes statistiques personnelles et de mes deux colonnes imaginaires, ça fait beaucoup de gens qui vivent dans la confusion et l'ignorance de leur nature profonde. Pas question que j'aille grossir leur rang. D'autant que si je continue à me sentir fille, je me fais de plus en plus souvent appeler jeune homme ou monsieur. Il faut dire que mes seins naissants se sont inexplicablement rétractés après des débuts prometteurs et qu'extérieurement, il n'y aurait guère que mes choix vestimentaires pour signaler mon appartenance au genre féminin. Comme je vis en jean, short, t-shirt et basket, ça n'aide pas à la distinction. J'accepterais d'être un garçon si j'avais le début d'une idée de ce que ça veut dire, mais ce n'est pas le cas. Comme il s'agit quand même d'opérer un choix crucial et que j'ai tout l'été devant moi, je décide de me lancer dans une grande enquête. Après tout, à Liberty House, je dispose à la fois d'un fonds documentaire exceptionnel, d'une maison hantée par des jeunes filles en uniforme et de colocataires des deux sexes, tout disposé à remplir mon questionnaire, puisque tel va être mon mode d'investigation. Voilà, ce sont quelques lignes au cœur de ce livre d'Emmanuel Bayamak-Tam, Arcadie, chez POL, et c'est bien, oui, Rihanna qu'on a entendu au début de cette séquence, sur une musique, bon, discutable peut-être, de David Guetta, mais ça fait partie de la BO hein, de cette jeune fille, la narratrice de ce livre, Elisabeth Philippe.
Oui, donc la narratrice qui s'appelle Farah, qui, comme on l'a compris dans l'extrait que vous avez lu, est donc intersexuée. Elle s'appelle Farah, mais elle ressemble moins à Farah Fawcett qu'à Sylvester Stallone, hein, c'est ce qui est dit. Elle a grandi dans cette communauté qui porte le nom de Liberty House. Elle y est arrivée à l'âge de 6 ans avec ses parents parce que sa mère est électrosensible, donc allergique aux ondes magnétiques et toujours vêtue de grandes combinaisons qui la font passer pour une extrémiste.
Ou une apicultrice, elle dit.
Ou une apicultrice, ça dépend. Et son père, donc, qui n'est pas très malin, pas très futé, mais qui cultive les fleurs. Et donc, cette petite famille est arrivée dans la communauté de Liberty House, donc une sorte de secte édénique, très tolérante, qui prône l'amour libre. Donc, tout le monde fait l'amour avec tout le monde, quel que soit l'âge. Il n'y a aucun tabou là-dessus. On mange végétarien. Voilà, c'est une sorte de... C'est dans un décor, un paysage idyllique, très pastoral. On pense évidemment à Virgile. C'est très bucolique. Tout ça se situe à la frontière entre la France et l'Italie. Et Farah grandit dans cette communauté à la tête de laquelle se trouve un certain Arcadie, homme charismatique, nous dit-elle, bien qu'assez laid, auquel elle voue un amour fou et très très érotique, qui va bientôt se matérialiser. Malgré, en dépit ou grâce à la spécificité physique de Farah. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans cet univers où même les gens très laids ont la chance de trouver l'amour, parce que de toute façon c'est une zone mirror free, il n'y a pas de miroir à Liberty House. Tout le monde est toléré, même gens dépigmentés, Kirsten, la grand-mère LGBT de Farah, qui a, je sais pas loin de 80 ans, mais qui déambule toujours en robe à sequins avec son piercing.
Ou sans,
quand elle s'habille. Voilà. Elle est plutôt naturiste.
Donc tout se déroule à merveille dans ce petit paradis. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur une phrase de la Genèse. Il lutte un soir, il lutte un matin, premier jour, jusqu'à l'arrivée d'un magnifique migrant. Et là, tous les beaux idéaux de la communauté de Liberty House vont être mis à mal.
Et là, on peut, en tant que lecteur, craindre le pire. Parce qu'effectivement, moi, j'ai eu cette sensation
que ça bascule.
Cette arrivée là, je lis Emmanuel Bayamaktam depuis quelques temps, j'ai pas lu tous ses livres, je dois le dire, mais c'est quelqu'un qui m'intéresse depuis toujours. Et je prenais un grand plaisir jusqu'à. Mais je vais laisser poursuivre Florent Georgescu. Est-ce que cette irruption a changé votre lecture ?
Pas tellement, parce que les problèmes ont commencé avant.
Mais je vous reconnais bien là.
Non, mais ça c'est de la formule. D'abord, ça a été merveilleusement résumé.
Bravo. Eh oui,
parce que c'est très. Non, mais vous avez.
Il n'y a que les meilleurs ici, vous savez.
C'est ça. Enfin, en tout cas, elle est là. Mais c'est parce que c'était pas facile de rassembler tous les plans. Il y a tous ces plans là et avant de parler des problèmes que j'ai pu rencontrer en le lisant, franchement, il y a une grâce très souvent. Il y a dans ce petit monde et ce petit mélange assez absolu, c'est-à-dire que tout ce qui peut être mélangé se retrouve mélangé, quelque chose d'extrêmement stimulant, d'extrêmement gracieux parfois. Le personnage de Liberty, par exemple, est un très beau personnage. Pour le coup, il y a une riche. J'ai dit Liberty, pardon.
Arcadie.
Arcadie. Arcadie, donc le gourou, l'amant d'abord de notre héroïne, de Farah, l'initiateur et l'amour peut-être absolu de cette jeune fille ou de ce jeune garçon. C'est un très beau personnage parce que lui est assez généralement inattendu, assez libre dans ses mouvements à l'intérieur du roman. Il sait concentrer tout ce que le roman promet de surprise, d'entrer dans un monde qui dévie suffisamment pour créer de l'inconnu, pour créer de l'inattendu. Et cela permet quand même, malgré ce que je vais dire ensuite, au livre de garder sa liberté un peu jusqu'au bout, de surprendre encore jusqu'au bout. Mais, dire ? Vous posez la bonne question, Arnaud. Est-ce que ce n'est pas ce migrant, est-ce que c'est pas un peu un Deus ex machina qui va tout à coup emmener le livre dans des zones plus tempérées, plus attendues, justement. Le problème, c'est que justement, c'est souvent le cas avant déjà. C'est qu'il manque. Il manque quand même une certaine folie réelle, concrète, dans le mouvement même de ce livre, qui permette de marcher tout le temps. Et c'est un peu lié à ce côté téléphoné que vous sembliez soupçonner. Je vous laisserai trancher.
Ouais,
mais elle coche beaucoup de cases. C'est dur de ne pas mélanger tout ça. Et il y a cette hypersensibilité. Enfin, il y a beaucoup de thèmes dans l'air du temps. Il y a l'intersexuation, il y a les migrants.
Mais ça ne date pas d'hier chez elle.
Le handicap.
Ces questions-là.
Oui, mais enfin, c'est peut-être pas une manière de se soumettre à l'air du temps. C'est peut-être une manière de se soumettre à elle-même. Mais il n'empêche que c'est une soumission. Et qu'il y a trop souvent, que ça donne trop souvent l'impression de remplacer le mouvement libre du livre. Il faut en passer par là plus souvent qu'il faut laisser advenir l'inattendu, le réel et le...
Je vous prolongerai peut-être dans les 13 heures à suivre. On sait qu'Elisabeth Philippe ne sera pas d'accord, mais avant qu'elle réagisse, on va entendre Lucille Comeau sur ce livre.
Moi non plus, je suis pas du tout d'accord. Je voulais vraiment remercier Elisabeth parce que c'est vraiment une lecture formidable. Enfin, moi, j'ai été très très enthousiaste et je suis très admirative de son écriture. Je trouve justement qu'elle reste, que le livre reste déroutant par cette écriture qui a une amplitude incroyable de passages extrêmement lyriques, de descriptions en effet bucoliques du jardin qui entoure Liberty House, à des dialogues extrêmement triviaux, en plein de l'argot d'aujourd'hui. Je trouve que réussir à tenir ça dans un livre, déjà, c'est quand même assez fort. Pour moi, c'est un grand livre du présent, justement. C'est un grand livre du présent parce que le traitement du contemporain, il est très particulier et il reste, à mon avis, tenu tout le long, et y compris à l'arrivée du migrant, dans une liberté de ton et une liberté de pensée, parce que je pense que vraiment les deux vont ensemble, qui est assez formidable. Prenons par exemple la question du genre, qui est en effet, qu'on pourrait dire, une question à la mode, pour aller vite, et de la même manière que les autres questions du contemporain peuvent l'être, et qui sont du coup engluées dans un type de discours qu'on entend dans les journaux, dans les autres livres, on aura l'occasion d'en parler, hein, parce qu'il y en a des livres qui parlent du contemporain. Elle est, à mon avis, traitée avec une fantaisie et une liberté qui n'exclut pas d'ailleurs de choquer. Par exemple, toute la question de la sexualité enfantine, enfin, c'est quelque chose qu'on ne lit pas souvent, je trouve, avec ce ton de liberté absolue, de dire les mots les plus crus, y compris les plus crus.
Il n'y a pas de sexualité enfantine.
Elle a 15 ans.
Il y a des flashbacks qui laissent entendre quand même que ses désirs de 12-13 ans sont quand même des désirs assez, assez particuliers. Moi, je trouve qu'il réussit vraiment à la fois ce roman à tenir une fantaisie permanente et en même temps à ne pas pour autant se désengager. C'est-à-dire que c'est un roman quand même tout à fait concerné par ces sujets-là. Oui, le migrant, il n'est pas juste là comme un accessoire, c'est pas juste un objet de fantaisie, c'est aussi une vraie question et la fin qui est un vrai appel à la révolution. D'ailleurs, le dernier chapitre, L'insurrection qui vient, est aussi le chapitre d'un livre d'un comité d'extrême-gauche qui s'appelle Le Comité Invisible, et ça n'est pas un hasard, est un vrai appel sérieux à la révolution, et je trouve que tout le roman, dans toute la liberté à laquelle il incite et la jouissance aussi, parce que c'est lié, vraiment invite à une forme de révolution qui est tout à fait convaincante.
Oui, là, vous en parlez thématiquement, c'est-à-dire justement, c'est un livre à idées. Il est beaucoup trop...
C'est un livre à langue, quand beaucoup, même.
Non, si. On ne trouve si, pas Florent. Qu'il soit porté par une langue, qu'il soit incarné. Mais c'est surtout un problème de composition, un problème de développement. Il n'y a aucun sens du temps, par exemple. On ne sent jamais le passage du temps, on ne sent jamais le développement temporel, c'est-à-dire hasardeux, c'est-à-dire imprévu des personnages. Ils sont eux-mêmes, ils le restent, parce qu'il y a une nécessité plus forte que de faire vivre les personnages, qui est justement de faire passer toutes les idées que vous avez très bien décrites. Mais il n'y a pas... On attend une folie, on attend quelque chose qui sorte des règles, et en fait, on recrée des règles qui sont des règles purement intellectuelles, là où on a besoin de chair, là où on a besoin d'incarnation, là où on promet cela. Ce que vous avez dit est de l'ordre de la pétition de principe chez elle, je veux dire. La liberté est un discours beaucoup plus qu'un mouvement des personnages et qu'un développement naturel des personnages.
C'est un mouvement d'écriture, c'est même un mouvement des sujets. Je pense parce qu'elle le fait de façon extrêmement subtile.
C'est un mouvement des sujets, justement. Mais des sujets.
Pas seulement.
Elle a une façon, moi je suis tout à fait d'accord, bon, ça ne vous aura pas échappé avec ce qu'a dit Lucille, je trouve qu'elle a très très bien mis le doigt sur cette façon d'aborder le contemporain. Effectivement, des sujets qu'on pourrait juger assez attendus, voire un peu tarte à la crème. Maintenant, si on n'a pas un roman sur le genre, je suis la première à trouver ça passionnant, mais voilà, c'est effectivement dans l'air du temps, et je trouve qu'elle le fait exactement comme l'a dit Lucille, avec une vraie liberté, parce que il y a toujours un tout petit décalage par rapport à la posture attendue de cet auteur. On n'est pas toujours dans le politiquement correct, on pourrait le craindre, et c'est, je pense, la crainte qu'avait Arnaud à l'arrivée du migrant. Mais on est dans la parabole. On est effectivement dans la parabole et de façon assumée.
Pardonnez-moi, nous sommes d'accord. Moi, je ne vous parle pas de... Je n'ai pas prononcé les mots politiquement corrects. Je m'en fiche. Un livre peut être politiquement correct et génial. C'est pas mon problème. Non, pas du tout. Ça, c'est un problème de contenu des idées. Moi, je vous parle de la place des idées dans le récit. Quelle qu'elle soit, que ce livre soit politiquement correct ou nazi, je lui demande d'être vivant, d'être un roman.
Il est extrêmement vivant.
En l'occurrence,
il y a des changements de ton en permanence.
Les décalages dont vous parlez sont des des décalages théoriques, mais il
non,
y a
pas seulement
sauf
théorique,
certains
non,
aspects comme
Elisabeth
le personnage
Philippe
Arcadie,
va finir sa phrase.
Il
n'y
a pas cette
non, ce ne sont pas seulement des glissements et des décalages théoriques. Je suis absolument pas d'accord. Non.
Non.
Mais lesquels concrètement?
Mais à chaque fois dans la façon dont elle s'empare de ces sujets, encore une fois, tout à fait dans l'air du temps, on pourrait dire voilà, il y a le migrant qui arrive, on va glisser vers quelque chose de très avec des grands sentiments, un peu larmoyant. Ce n'est pas le cas. C'est un exemple.
Mais le problème n'est pas là. Le problème est que le migrant arrive à la place d'un événement qui serait l'événement propre à la vie qu'elle raconte. Oui. Là, c'est un événement purement extérieur qui tient au dispositif qu'elle a prévu pour son livre.
Ce dispositif est aussi celui d'une utopie. C'est tout ce que je dis. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du manifeste dans ce livre, qu'on pourrait appeler un manifeste transgenre, d'abolition, de demande d'abolition de toutes les frontières, qu'elles soient frontières sexuelles, qu'elles soient géographiques.
Mais moi, je raffole de ce manifeste.
On n'a pas du tout parlé de ça, mais
je préfère lire un manifeste.
Elle hybride aussi. Aussi énormément de citations littéraires. On va de Mouzil à Michaud, en passant par toutes sortes d'autres auteurs qu'elle remercie, enfin qu'elle cite d'ailleurs à la fin du livre. Donc il y a au contraire tout un effort d'hybridation, et moi je pense qu'on est constamment dans une toute petite déviation par rapport à ce que vous appelez...
Alors on finit avec Lucile Comeau.
C'est une technique. Cessons déjà de parler de l'arrivée du migrant comme si ça s'était un pli dans le livre.
C'est moi
qui l'ai lancé là-dedans. Vraiment, il n'y a pas du tout d'avant et d'après arrivée du migrant. Et je pense
que le problème commençait avant.
Oui, non, mais je pense qu'au niveau de la forme, ce qui contredit totalement l'idée que ce soit un trait tiré vers une démonstration et que ce soit théorique et démonstratif, c'est que c'est extrêmement éclaté. Vous disiez, il n'y a pas de temporalité. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est extrêmement fin, le traitement de la temporalité. Il y a à la fois des flashbacks extrêmement lointains. Il y a des choses beaucoup plus récentes. Il y a des personnages qui apparaissent totalement à la fin du roman et qui apportent quelque chose de totalement gratuit. Il y a un nombre de choses gratuites et qui sont juste là pour la jouissance de la langue. Je pense, par exemple, à toutes les scènes de sexe, c'est pas, je veux dire, les
elles
scènes de sexe
bien.
Ne sont pas là pour nourrir une réflexion sur le genre. Ce serait vraiment faux de le dire. De la même manière, il y a un nombre de scènes.
Je n'ai jamais dit que toutes les pages de ce livre étaient marquées par ce que je disais.
De repas,
sincèrement, j'en pense beaucoup bien de bien sur certaines choses.
On arrête là.
Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il a de meilleur, c'est tout. Et c'est pour de toute autre raison que
c'est une vraie fantaisie, aussi bien dans la langue que dans la façon d'aborder les thèmes mis en avant dans ce livre.
Florent Georgesco pense beaucoup de bien d'Arcadie, d'Emmanuel Bayamaktam, c'est lui qui vient de le dire. Le
livre est publié. Et c'est ce qui crée ma déception.
Chez
PEL, j'en pense.
Alors, vous pourrez écouter Emmanuel Bayamaktam sur cette antenne, pas plus tard que samedi, dans Le Temps des Écrivains avec Christophe Audibio. Elle sera avec d'autres auteurs, en l'occurrence Mélisse de Kerangal et Yves Bichet.
Confère le
petit seul. Elle sera l'invitée de Marie Richeux lundi soir à 21h. Emmanuel Bayamaktam.
Je peux ajouter un mot sur le... Mais c'est lié au petit salon.
Je vous l'enlèverai sur Pierre
Guillotin. Oui, entendu, mais il y a qu'un mot à dire sur Guillotin, je le dirai vite.
Génie, il va dire.
Bien entendu, c'est fait, voilà. Je le dis pas de manière polémique, mais une réponse aux questions que vous posiez, Lucile, c'est que les médias, en général, demandent justement plus facilement qu'autre chose des livres qui traitent du contemporain. Ça ne veut pas dire que les livres qu'ils choisissent sont mauvais.
Arcadie n'est pas une réponse à cette demande.
Mais il se trouve que ça fait partie de ces livres, ça fait partie des 30, Arcadie. Si, vous ne pouvez vraiment pas dire le contraire, on vient de l'entendre. Pourquoi privilégier-t-on ça?
C'était un mot que vous vouliez ajouter, non?
Oui, c'est ça.
Parce que c'est un livre réjouissant et que par moments, il faut accorder son plaisir.
Non, ce n'est pas que pour ça. Ça tombe bien, parce que ça permet de parler de sujets qui intéressent le public. C'est ce qu'on a en tête.
Mais elle seule en parle de cette façon, et j'invite vraiment les auditeurs en juger par eux-mêmes.
Non, mais c'est possible. Mais c'est une des explications de la concentration sur certains titres.
Mais c'est encore mieux quand il y a la qualité. Au rendez-vous, comme c'est le cas, me semble-t-il, avec cette Arcadie. C'est le retour des coups de cœur, chaque soir, en alternance par nos critiques. Ce soir, c'est Elisabeth Philippe qui nous dit quelques mots du nouveau livre de Nicole Kraus, Forêt obscure, paru aux éditions de l'Olivier dans une traduction de Paul Guivarch.
Le titre « Forêt obscure », c'est un titre tiré d'un vers de Dante que je vais vous lire. « Au milieu du chemin de notre vie, je me suis trouvée dans une forêt obscure, car la voie droite était perdue. » Et c'est un vers qui va très très bien à l'œuvre de Nicole Kraus, chez laquelle il y a Il y a rarement de voix droite, que ce soit dans l'histoire de l'amour ou La Grande Maison, ses précédents romans. Et dans ce livre, peut-être encore plus, puisque c'est vraiment le livre des bifurcations. On s'enfonce dans cette forêt obscure sans vraiment savoir et comprendre où elle nous emmène, puisque le livre entretisse deux destins, celui d'un riche avocat new-yorkais qui est septuagénaire et est dans une phase où il se défait de tous ses biens, de toutes ses possessions, dans une envie comme ça d'épure. Et l'autre histoire est celle d'une romancière qui s'appelle Nicole et qui présente beaucoup de traits communs, de points communs avec l'auteur, Nicole Cross, et qui elle aussi est dans une phase de une sorte de bifurcation, de changement, puisque elle, c'est son mariage qui se délite. Et ces deux personnages qui ne se connaissent pas, qui ne se croiseront pas ou peu dans le roman, vont tous les deux se retrouver à Tel Aviv, chacun pour des raisons différentes, et chacun guidé par un personnage un peu mystérieux, le riche avocat par un rabbin assez étrange, et l'écrivaine, la romancière, par quelqu'un qui se présente comme un professeur de littérature, qui a peut-être été agent du Mossad, et qui l'entraîne qui veut lui faire écrire la suite d'un roman de Kafka, puisque donc il a en sa possession, ou en tout cas il a un accès au manuscrit inédit de Kafka, et ça c'est une histoire vraie, hein, c'est le manuscrit qui était retenu par une héritière de Max Brod, l'ami de Kafka, à Tel Aviv, en Israël. Donc deux histoires qu'a priori rien ne relie, et ce qui est formidable et magnifique avec Nicole Cross, ce sont toutes les strates qu'il y a dans ce livre, puisqu'en fait c'est une réflexion qu'elle mène à travers ces deux destins entrecroisés sur ces moments, ces kéros, puisque le terme de kéros, le terme grec est employé, ces moments de bascule, ces moments suprêmes où tout d'un coup les vies se transforment, et effectivement la métamorphose, puisque le roman est sous l'égide de Kafka, est l'un des thèmes principaux de ce magnifique roman, qui est à la fois un roman métaphysique, un roman empreint de culture juive, talmudique, littéraire, voire quantique, puisqu'il est question de multivers. Et en fait, à chaque fois, Nicole Cross ouvre de nouvelles portes. Chaque phrase ouvre de nouvelles portes, de nouveaux univers, de nouveaux multivers même. Et c'est un des romans les plus riches de la rentrée, parce que ça ne veut rien dire. Je n'ai pas lu les 567 livres. Mais c'est un roman d'une richesse extraordinaire, porté par une langue magnifique, lumineuse, contrairement à ce que le titre pourrait nous laisser penser.
Nicole Cross, Forêt obscure, aux éditions de l'Olivier, traduction Paul Guivarche.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Et le dernier livre au programme de cette dispute, celui de Pierre Guyotat, intitulé Idiotie, qui revient une fois encore sur la vie passée de l'écrivain dans un moment ici charnière, puisque il va s'agir de son entrée dans l'âge adulte. Le texte déroule les années 58 à 62, de l'arrivée à Paris après les années de pensionnat à Lyon jusqu'au retour d'Algérie, dont on sait à quel point cette guerre aura marqué le futur auteur de Tombeau pour 500 000 soldats. Dans les chambrées, nous nous défaisons de notre uniforme, enfilons nos vêtements civils. Pour la vie, effet militaire remis au fourrier, sac au dos, nous passons le portail, les guérites. Enfin, sans rang, nous courons les 3 ou 4 derniers kilomètres de goudron crevassé vers la gare entre les champs de betteraves trempés. Ai-je au cou la chaînette de ma plaque d'immatriculation ou l'ai-je rendue avec son numéro gravé de chiffres ? Des milliers d'entre nous la portaient au cou de leur dépouille, quelquefois mutilés des organes par lesquels ils auraient pu transmettre la vie, un peu de leur cœur, de leur esprit, de leur souffle au monde et du souffle du monde en eux, allongés dans les gorges, sur les plateaux, sur les pavés, sur les trottoirs de l'Algérie. Mais avec eux, auprès d'eux, maintenant et à cette heure encore, tous les égorgés, tous les mutilés du nez, des lèvres, des oreilles, tous les énucléés, tous les démembrés, tous les désentraillés, tous les traqués abattus, tous les battus à mort, tous les déchiquetés, tous les enflammés, bébés jetés contre les murs, mères enceintes éventrées, toutes les violées, tous les torturés, tous les ébouillantés vifs, tous les hachés, tous les sciés vifs, tous les écorchés, tous les rendus fous, tous les humiliés à vie, tous les disparus jamais retrouvés, victimes à retardement du crime originel de la conquête. Vers Paris, vers la fin, vers mon père, humilié, plus de moi que de mes juges, mais décidé à en découdre, tout à y reconquérir, mais avec quelle force de chair renouvelée. Une fois n'est pas coutume,
oui.
J'ai lu la fin du livre.
Vous avez transgressé.
Eh ben oui, mais est-ce que ça s'y prêtait pas, Florent Georgescu?
Ça s'y prêtait parfaitement. Le suspense était faible dans le livre.
C'est pas facile à lire du Biota. Hein,
c'est
aussi,
pas,
hein.
Oui. Oui, ce sont des passages plus réguliers que certains au milieu. Mais non, mais c'est un très bon résumé et de la forme et du récit dans ce livre. Donc oui, pour résumer un petit peu. Donc d'abord rappeler que ce livre s'inscrit dans une ligne de l'œuvre de Guyotat. Vous connaissez tous, enfin je ne sais pas si tout le monde l'a lu, la ligne la plus ardue de son œuvre, la plus radicale, qui est celle écrite dans ce qu'il appelle sa langue. Dans la langue qu'il a créée depuis Prostitution dans les années 70, c'est Progéniture par exemple, qui est un très grand livre extra qui demande beaucoup de mois de travail peut-être pour y entrer profondément, mais ça en vaut la peine, passons. Depuis quelques années, en fait depuis je ne sais plus exactement la date de ce livre, mais depuis Coma, il a commencé une entreprise dont les gens n'ont pas bien remarqué d'ailleurs que ça avait coïncidé avec la publication d'une biographie sur lui. Une biographie a été publiée vers 2004 ou 2005 aux éditions Léo Cher, signée de Catherine Brun. Juste après, il commençait à raconter lui-même sa vie. Il y a une sorte de vengeance à l'égard de sa biographe. Donc avec Coma, il a commencé à raconter dans ce qu'il appelle la langue normative, la langue qui se soumet aux règles communes, la langue donc française. Il a commencé à raconter sa vie, dans le désordre d'ailleurs. Coma évoque des épisodes beaucoup plus tardifs que ce que nous avons là. Il est revenu entre-temps sur son enfance. Ici, donc, ce sont les années... Ça commence par une fugue. Mmh. Ce sont des années où il commence à quitter la maison de ses parents et surtout... Ce ne sont plus ses parents puisque sa mère est morte. Et un des fils de ce livre-ci, c'est cette mort, cette absence de la mère. Un fugueur qui commence à vivre de petits boulots dans Paris et puis qui, comme les jeunes gens de sa génération, né au début des années 60, et doit partir sous les drapeaux, et en l'occurrence en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Et l'essentiel, enfin les deux tiers du livre sont algériens, et sont notamment concentrés sur ce qui lui arrive là-bas, c'est-à-dire qu'il finit par être arrêté à cause de ses écrits, qui auraient été retrouvés, de notes, car à ce moment-là, il écrit déjà, et en fait, il commence déjà à publier, c'est le moment où il publie ses premiers livres au Seuil. Des écrits l'incriminent, et il y a de très longues scènes d'interrogatoire où on voit même un colonel essayer de faire l'exégèse d'un texte de Guyotat. Courage, colonel. Et voilà l'essentiel du livre. Ça, pour le résumé. Peut-être.
Premier regard, parce que ça va être rapide. Lucile Comeau sur Idiotie de Pierre Guyotat chez Grasset.
Oui, alors moi, c'est une écriture que je fréquente pas du tout. Je me suis souvenue, après avoir lu Idiotie, avoir lu quelques pages, je crois, de Tombeau pour 500 000 soldats, mais c'est resté dans un coin assez obscur de ma mémoire. Moi, j'ai eu du mal à le lire, hein. Il faut vraiment, objectivement, j'ai eu du mal parce que déjà, c'est une écriture difficile, même si elle est certainement plus facile à lire que d'autres de ses livres. C'est une écriture qui est une sorte de... Là, on l'entend en effet pas tellement, parce que la fin est assez lyrique, donc c'est porté. C'est une forme de ligne brisée, avec beaucoup de saccades, et qui fonctionne vraiment comme des petites touches. C'est-à-dire qu'on a vraiment des scènes avec des détails, donc souvent qui sont des détails des corps, des personnages qui sont décrits. Parce que le corps a une grande importance. Ça donne quelque chose de très maniéré aussi. Vignettes qui parfois me fatigue un petit peu. En fait, il y a un effet de saccade parfois dans la description de l'action qui à la fois donne une impression de vertige et qui crée même paradoxalement des effets de suspens. Je pense qu'il y a des moments par exemple où le narrateur découvre un détective en bas de chez lui et où l'écriture de Guyotat comme ça par petites touches donne une vraie efficacité dans la narration. Et puis il y a des effets de répétition qui sont parfois difficiles à lire, qui créent une ivresse qui moi me saoule au sens premier du terme. Vraiment, ça me crée cet effet-là presque de nausée, et j'ai du mal à lire ça. Par ailleurs, je trouve très surprenant, et au début ça m'a beaucoup désarçonné, et en fait c'est ce qui m'intéresse le plus, la transition entre la première partie, donc le premier tiers qui est parisien, et qui pour moi est très... me convoque des images d'un Paris beaucoup plus ancien que le Paris des années 60, qui est une bohème très romantique dans le fond. Et il y a aussi quelque chose de ça dans son écriture. Et ces deux tiers algériens qui arrivent d'un coup et auxquels on ne s'attend pas quand on ne connaît pas par ailleurs la vie de Pierre Guyotat. Et finalement, c'est cette espèce de coupure-là qui m'intéresse le plus dans le roman.
Elisabeth Philippe.
Coupure qui n'en a pas vraiment une, puisque finalement tout le propos de Guyotat, c'est cette articulation entre l'individuel et le collectif, et comment les événements, enfin l'histoire, imprègne son corps, imprègne son désir, et bien sûr va imprégner son écriture, et comment même désirer, lui est impossible de désirer un corps colonisé ou un corps qui avec, il appelle ça une peau arabe, qui incarne la colonisation, qui est pour lui un des plus grands crimes. Donc c'est un corps et un écrivain hanté par la guerre qui vient de s'achever, la Seconde Guerre mondiale, et par la guerre qui est en train de se mener, la guerre d'Algérie. Moi, je trouve que c'est un roman magnifique, finalement peut-être un des plus accessibles de Guyotat. En tout cas, je trouve qu'il est extrêmement accessible. Cette langue dont vous parliez, Lucille, moi, je trouve que c'est un écoulement absolument magnifique, un écoulement d'une sorte de la froide qui charrie également toutes les humeurs possibles, parce que cette confrontation avec le sale aussi. En fait, Guyotat, c'est une forme de moine-soldat, presque d'anachorète, qui se complaît comme un saint dans cette saleté extrême, qui veut partager la misère, et puis qui devance même l'appel finalement sous les drapeaux, parce qu'il aurait pu bénéficier d'un sursis, et lui demande à être dans cette...
Il est plus jeune que ses camarades.
Absolument, il y a cette scène magnifique où il est à Paris, il est recueilli par une prostituée parce qu'il ne se nourrit plus que d'huile et de pain, et il a un malaise à l'église Saint-Eustache, et donc ça va presque faire l'articulation qui est incroyable, et c'est vraiment pour coller au titre, moi ce que j'ai trouvé très beau, donc c'est Idiotie, et à un moment il parle de la lecture de Faulkner qui va déclencher quelque chose chez lui dans son écriture, et on ne peut que penser au Bruit et la Fureur, et donc au vers de Shakespeare qui donne le titre Le Bruit et la Fureur, une histoire dite par un idiot pleine de bruit et de fureur, et c'est ça, Idiotie. Et c'est vraiment un très très beau texte.
Ouais, moi je souscris pleinement en disant que moi j'avais été très marqué par Coma, que j'ai lu plusieurs fois, parce que je pense que ça on y gagne à s'y replonger, et que moi cette ivresse, ça agit à plein et de façon très bénéfique chez moi. Je suis à la fois extrêmement admiratif, parce que je ne sais pas comment effectivement il arrive à construire ce flux-là, parce qu'il y a quand même quelque chose dans lequel on est complètement plongé, entraîné. Moi, je trouve ça d'une force extrême. On peut dire que les scènes de sexe sont assez réussies pour vous citer, parlant d'Emmanuel Maillat-Mactab, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Et juste avant de vous laisser,
réussie n'a pas le même sens.
Voilà. Juste avant de vous laisser finir, Florent Georgesco, quand même un commentaire, Boris Pinault sur Twitter.
Oui, un mot dithyrambique de Gilles Morena. C'est l'un des plus beaux livres écrits en langue française que j'ai lu depuis au moins 10 siècles, 10 vies, 10 ans. Je suis sidéré, dépassé, presque fatigué de ce lyrisme outrancier, mais quelque chose se passe qui n'a pas eu lieu depuis très longtemps. L'émerveillement, la fascination, me signifiant qu'il n'y a que vous, monsieur Guyotat, pour être poète comme vous l'êtes et faire don d'une telle force et d'une telle écriture.
Ah, c'est le pseudo de Florent Georgesco, donc on l'a trouvé.
Allez, Florent.
Allez, 2 minutes 30, pardon.
Écoutez,
mais
oui, je suis
vous avez dit que vous aviez qu'un mot à dire.
Je suis bien d'accord,
oui,
mais je l'ai dit. Je suis bien d'accord avec ce monsieur. Sauf le mot lyrisme. C'est pas du tout ça. Et je suis d'accord avec Lucille quand elle parle d'être saoulée. Oui, c'est vrai que ça nous change de la vitelle. C'est dense, c'est plein. C'est le contraire pour moi du lyrisme. Il y a une touche de lyrisme dans le passage final que vous avez lu, Arnaud. Mais il n'y en a presque pas dans le livre. Il a, en fait, c'est la littérature à l'état pur, parce que c'est une langue qui est capable en permanence de se casser pour y faire entrer le maximum de réel possible sous toutes ses formes, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Il faut parler de la notation, il y a du sens de la vision chez Guyotat. Ces phrases ont des yeux au bout. Tout.
Et lui-même
tout
est souvent voyeur
en plus. À mesure et regarder, et le mouvement essentiel en effet de Guyotat, les scènes de sexe sont des scènes de voyeurisme, la sexualité est toujours celle des autres, et il y a une puissance dans le voyeurisme qui est comme une quintessence de son art. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il faut comprendre même par rapport aux 587 je ne sais plus romans, c'est que c'est ce qu'on attend de tout livre, et c'est ce qu'on rencontre si peu souvent, c'est-à-dire une langue où il n'y a, moi, je ne trouve pas là-dedans un seul mot qui n'est sa nécessité absolue pour exprimer le réel qu'on veut exprimer. Alors que dans tous les livres qu'on lit, on entend beaucoup, toujours, du convenu, de l'expression sociale. Il n'y a rien de social là-dedans.
Sans compter l'usage de mots rares comme pelu, la main pote, enfin, il y a tout ce vocabulaire aussi.
Qui, à mon avis, tient à la, justement, ce sens de la réalité. C'est la langue de qui se parlait à ce
Absolument.
Moment-là qu'il fait entendre.
Absolument.
Ou la langue de milieux différents.
Sans que le texte perde rien de son incroyable modernité, de
Absolument.
Sa radicalité.
Mais c'est la modernité absolue, c'est la liberté absolue, parce qu'il n'y a aucune trace de convention. Tout est inventé à mesure. C'est la différence radicale d'un très grand écrivain avec
les autres. Comment.
Pour autant, sans les conventions, on peut retrouver dans son écriture des racines qui peuvent être de belles racines, mais qui, à mon avis, sont des formes de référence à une littérature plus ancienne. Alors, peut-être pas le lyrisme, mais de romantisme.
Je suis totalement d'accord, mais
voilà,
ça n'a aucun rapport.
Ce qui, à mon avis, contrevient au caractère entièrement neuf de son écriture et qui, moi, me laisse un goût parfois de déjà vu.
Non, ce serait vrai si le neuf radical sans héritage existait. On ne fait de neuf que de cette manière. Lisez Les leçons sur la langue française de Pierre Guillotat, qui est un livre de 1000 pages, qui est justement la totalité de
Allez,
ses sources.
Pour demain soir.
Qui est une histoire
Merci,
de littérature. Mais quelle est
Jean-Gesco.
Cette idée le neuf n'existe que de la manière que vous venez de décrire. C'est quoi
On
le
est
neuf
d'accord.
radical
Idiotie de Pierre Guillotat chez Grasset. Et avant de conclure, on va être obligé de faire galoper Sarah Dion, qui est avec nous à la dispute pour quelques mois, et qui va faire le jeu de la dispute ce soir avec nous. Sarah, vous allez nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse.
Combien de courts-métrages Camille Vidal-Naquet a-t-il réalisé avant Sauvage, son premier long-métrage ? La réponse était 3.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Hugo Pratt, Ligne d'horizon, au Musée des Confluences à Lyon. Quelle est la question ?
Quel est le titre du premier album de la série Corto Maltese, publié par Hugo Pratt en 1975 ?
La réponse, si vous l'avez, il n'a pas Florent Georgescu.
Combo pour 500 000 soldats.
C'était, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute. Demain, 19h, dispute cinéma. On ne sera pas encore au Bel Air, ce sera la semaine prochaine. Nous serons en studio avec Muriel Joudet, Lucille Como et Thierry Chaise. Nous parlerons de Black Klansman de Spike Lee, de Burning de Lee Chang-dong et de Sauvage de Camille Vidal-Naquet. Il y aura aussi un coup de cœur de Thierry Chaise pour Guy d'Alex Lutz.